Voici les titres du journal.
70 millions de francs seront investis dans le nouveau projet Chablais Agglo. Les cantons de Vaud et du Valais ainsi que les communes de Massonger, Montet, Colombey-Murat, Aigle, Baie et Olon ont signé hier une convention en ce sens. Puis le conseil général de Montet a décidé hier de transformer son secteur énergie, électricité et développement durable en une société anonyme financée par les fonds publics. La décision a été presque unanime, 51 oui contre 3 non. Puis le nouveau milliard destiné aux pays de l'Est de l'Europe attendra le Conseil des États à balayer ce matin un texte qui visait à libérer rapidement ce montant. Et puis enfin en course à pied, les 20 km de Lausanne sont de retour après une année blanche en 2020. La manifestation vaudoise a tout de même dû s'adapter pour cette 39e édition.
De plus en plus de nuages pour la météo de cet après-midi avec un risque d'averse qui va augmenter, un risque d'averse qui se maintiendra demain avec un temps seulement en partie ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal présenté par Quentin Fray. Bonjour Quentin.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Une histoire commence entre Radio Chablais et Vincent Veillon le 14 février prochain. Le célèbre animateur-producteur chablaisien mettra son expérience et son talent au service de votre média régional. L'objectif est d'apporter de la fraîcheur et des nouveautés dans les programmes. Pour accompagner ce développement, plusieurs changements structurels seront opérés dès le 1er janvier à venir. Après 11 ans à la tête de la rédaction, Florian Barbet quittera ses fonctions pour animer exclusivement un nouveau rendez-vous quotidien d'actualité. Le poste de rédacteur en chef sera assumé par l'actuel chef antenne Xavier Bourgeot. Maura Bianchi prendra quant à elle la tête du service publicitaire. De nouvelles offres de radio digitale s'ajoutent également à ces changements. Radio Chablais Urban sera diffusée en DAB+ dès la Saint-Valentin 2022.
Le projet Chablais Agglo a franchi une nouvelle étape.
Et oui, les communes de Colombey-Murat, Montet, Massonger, Olon, Baie et Aigle ont développé une vision coordonnée du développement urbain, de la mobilité et de la transition énergétique au niveau régional. 75 mesures ont été développées dans le cadre de la quatrième génération du projet. La Confédération jugera si elle souhaite participer à leur financement à un maximum de 50%. Les explications de Stéphane Coppet, président du comité de pilotage de Chablais Agglo et de la commune de Montet.
Alors je crois qu'il faut rappeler qu'un projet d'agglo s'inscrit sur le moyen et le long terme. Les investissements seront prévus une fois cette quatrième génération adoptée, on l'espère, dans les 4 années qui suivent. Mais des investissements effectivement reconnus importants pour la commune de Montet, c'est tout l'aménagement qu'il y aura autour de nouveaux tracés à OMC notamment, la refonte de la place Lagarde. L'élément, je dirais, central par rapport à l'ensemble des 6 communes, c'est toute la mobilité douce qui est revue, réorganiser, réaménager, et je crois que uniquement dans cet aspect-là, c'est une réelle plus-value pour la région.
Plus de la moitié des mesures concernent la mobilité et pour cause. Dans la précédente mouture présentée en 2016, la Confédération avait épinglé la trop grande importance accordée au transport individuel motorisé. Responsable du projet, Pierre Hickmer explique comment la quatrième version du projet a cherché à corriger le tir.
Alors déjà dans le troisième projet, il n'y avait encore pas le réseau Mobi Chablais qui était présent, donc il était proposé dans ce projet-là, et sachant qu'il n'y avait encore pas non plus toutes les communes, donc Baie et Olon qui étaient dedans, donc l'idée c'est aussi de continuer à favoriser ce transport public, donc continuer ce projet, à continuer à l'étendre, mais aussi justement à donner plus de possibilités aux gens de se déplacer en mobilité douce, et également de justement de pacifier, ce qu'on appelle pacifier les centres, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens passent pas forcément, s'ils veulent aller de Colombey à Massonger, ne passe pas forcément par Montet, mais plutôt par l'autoroute, ce qui permettrait d'avoir moins de transit à l'intérieur et donc d'avoir vraiment des réseaux qui soient un peu plus pacifiés, qui soient un peu mieux exploités qu'ils ne sont à l'heure actuelle.
Mais alors concrètement, quelle différence entre la version de 2016 et celle de 2021 ? On retrouve Pierre Hickmer.
Alors jusqu'à maintenant, dans le PA3, on avait proposé de passer comme un peu une épine dorsale le long du Rhône et que toutes les communes viennent se greffer sur cette épine dorsale. On s'est rendu compte que, par exemple, si on veut aller de Aigle à Baie, il faut rejoindre le Rhône, ensuite longer le Rhône et retourner sur la commune suivante, alors que là, on a des axes beaucoup plus directs, ce qui fait que les gens peuvent en fait faire des gains de temps et d'énergie pour se déplacer dans les communes directement entre les localités. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on espère que ce réseau structurant permettra vraiment d'amener une ramification à l'intérieur des communes pour vraiment avoir un réseau de plus en plus complet au fur et à mesure des projets d'agglomération.
Et à noter que le projet Chablais Agglo 4 contient pour la première fois un volet énergétique basé sur des principes de l'économie circulaire. C'était un sujet signé Bertrand Girard.
Dans le même registre, le projet Agglo Coude du Rhône a aussi été signé hier.
Oui, maintenant terminé, le document est passé dimanche soir par une dernière présentation citoyenne. Il a ensuite été signé par les présidentes des communes de Martigny, Martigny-Combes et Fuilly, mais également par le conseiller d'État Franz Ruppen et le président du comité de pilotage Bernard Monnet. Le dossier a ensuite été déposé à Berne. On écoute Bernard Monnet.
La validation, il faudra avoir de la patience puisque ça sera seulement en 2023. Et s'il est validé, ce que nous espérons tous et nous penserons tous, car nous avons pris toutes les dispositions utiles pour répondre à tous les critères, que ce soit au niveau des services de l'État du Valais, des mandataires, de la Confédération, de son service de l'arrêt, nous sommes très positifs. Nous avons même fait un rapport qualité avec une autre entreprise spécialiste dans ce domaine, Team Plus, pour avoir la sécurité que nous sommes vraiment dans la ligne des exigences de la Confédération. Et ensuite, bien entendu, pour la mise en œuvre, alors là, on pourra aller dans le détail et reprendre encore toutes les suggestions autres qui ont été émises par les citoyennes, citoyens, voire institutions.
Donc ça repousse à très loin les premiers travaux, si je vous entends bien.
Oui, effectivement, les premiers travaux ne doivent pas se dérouler avant 2024, faute de quoi nous ne bénéficierons pas des subventions.
Et en cas de retour positif, la région pourra en effet compter sur un soutien financier important de la Confédération pour mettre en œuvre les quelques 65 mesures proposées par ce projet. C'était un sujet de nos confrères d'Euron FM.
Montet aura sa société anonyme de distribution d'électricité.
Et oui, une décision validée hier soir par le Conseil général de Montet. Concrètement, il s'agit de transformer l'actuel secteur énergie, électricité et développement durable, le distributeur d'électricité, en somme, par une société anonyme financée par des fonds publics. Cela permettra d'améliorer la rapidité des projets de développement durable, mais aussi de faciliter la collaboration entre les travailleurs, le distributeur et les clients. Maintenant que la proposition a été acceptée par 51 oui contre 3 non, quelle est la prochaine étape ? Écoutez la réponse de Fabien Girard, municipal montaisan en charge notamment de l'énergie.
La suite, ce sera bien sûr la constitution de la SA au 1er janvier 2022. Ce sera vraiment mettre en place justement ces contrats de partenariat avec les installateurs locaux, de manière à pouvoir être proactif pour la suite lors d'appels d'offres. Et surtout, après, on fera aussi tout ce qui est gestion du personnel et tout suivi qui prendra le temps qu'il faudra. Mais vraiment, on veut agir avec agilité, souplesse et assez rapidement.
Janvier 2022, c'est dans moins de 4 mois. Cette volonté de créer rapidement cette société n'est pas due au hasard. Il y a un objectif derrière cela. On retrouve Fabien Girard.
Pouvoir déjà engager quelques moyens, notamment pour investir dans des centrales photovoltaïques. Après, le but et l'objectif de transfert de la gestion du réseau de distribution, donc le rôle de GRD qui est attribué au niveau national, à monter aujourd'hui. Le but, c'est qu'on se laisse ce délai au 1er janvier 2023 pour faire l'ensemble des procédures. Mais effectivement, le but, c'est qu'on ait déjà une coquille qui puisse travailler avec une forme juridique existante et des ressources à disposition de manière à pouvoir être proactif dans l'ensemble de cette démarche.
Voilà, c'était des propos recueillis par Léa Journaud. On le rappelle, cette proposition de transformation a été acceptée hier soir à 51 oui contre 3 non.
Colline Serrault est l'invitée d'honneur du VIF à Vevey.
La cinéaste, scénariste et actrice a notamment marqué l'histoire de la comédie française en réalisant l'immense succès populaire et critique « Trois hommes et un couffin ». C'était en 1984. Passionnée de théâtre et de cinéma, elle viendra présenter quelques-uns de ses films et donnera une masterclass. La 7e édition du Vevey International Funny Film Festival se tiendra du 28 au 31 octobre prochain. Les couples de même sexe doivent-ils pouvoir se dire oui ? Vous devrez vous prononcer le 26 septembre prochain sur le mariage pour tous. Il s'agit d'adapter le code civil pour permettre aux couples homosexuels d'être mariés civilement. Pour le Conseil fédéral qui défend le texte, l'objectif est de leur garantir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Mehdi Piquant de Radio Fribourg a rencontré un couple de lesbiennes fribourgeoises, Kelly et Sarah Gomez, pour voir ce qui pourrait changer dans leur quotidien en cas de oui.
On paye nos impôts, on fait toute notre vie comme n'importe quel autre couple, on a les mêmes devoirs, mais c'est juste ce droit-là qu'on n'a pas, enfin ces droits-là qu'on n'a pas, donc nous donner des droits, ça va pas enlever des droits à d'autres couples. Les couples hétérosexuels ont toujours les mêmes droits, c'est juste donner le même droit à d'autres couples, c'est tout.
Sarah et sa compagne Kelly, toutes deux gruyériennes, sont en couple depuis bientôt 10 ans maintenant. Elles ont conclu un partenariat enregistré en octobre dernier. Alors oui, ça leur a donné des droits en plus, mais selon elles, cette union n'est pas suffisante. Elles se sentent encore discriminées par rapport aux couples hétérosexuels. Kelly, 27 ans, nous donne un exemple concret du quotidien.
Tout ce qui est administratif, où on doit remplir une case, où c'est écrit célibataire, marié, et puis parfois il y a, parfois il n'y a pas, mais quand il y a la petite case partenariat enregistré, et ben en fait, comme en Suisse, le partenariat enregistré c'est uniquement pour les couples de même sexe, on fait un coming out forcé.
Le mariage pour tous impliquerait également trois grandes nouveautés pour les couples de même sexe: la naturalisation facilitée du partenaire, l'adoption conjointe d'un enfant et puis l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA pour les couples de lesbiennes, la pratique qui est uniquement ouverte aujourd'hui aux couples hétérosexuels, stériles ou porteurs d'une maladie grave. Pour notre couple fribourgeois, Kelly et Sarah, qui souhaitent fonder leur propre famille, sans un oui, le 26 septembre prochain, la situation resterait très compliquée.
Pour l'instant en Suisse, on est obligé d'aller à l'étranger ou alors on appelle ça de manière un peu artisanale, mais on ne peut pas être aidé par un médecin pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est beaucoup de temps parce qu'il faut partir à l'étranger. Souvent, ce qu'on a vu, c'est que c'est quelques jours avant. Au niveau du travail, quitter son travail comme ça, c'est pas possible. Là, auprès de l'employeur, de devoir dire « je pars faire un bébé », il faut même dans les congés, c'est...
C'est pas un motif d'absence reconnu.
Voilà, alors qu'un couple, hétéro, s'il fait un enfant, on va pas leur demander comment, on va pas... Il n'y aura pas besoin de prendre congé pour ça, c'est un peu différent. Même pour après, en fait, il n'y a pas qu'au moment de faire l'enfant, c'est aussi tout ce qui est par après, le droit à l'autre parent. Il y a une mère qui est plutôt biologique, qui est portée, et puis il y a une mère sociale qui, elle, doit adopter son enfant, et ça prend une année à une année et demie. Dans ce laps de temps, cet enfant, il n'a pas ses deux mamans légalement en Suisse. Il arrive quoi que ce soit à la mère qui a porté, cet enfant, c'est terrible, quoi. Il perd ses deux mamans, en fait.
Difficile aussi de chiffrer le nombre exact d'enfants qui vivent déjà en Suisse dans un foyer homoparental. Il y en aurait entre 6 000 et 30 000, selon certaines estimations. Et c'est justement le sort de ces enfants qui inquiètent les opposants. Ils estiment qu'il faut un papa et une maman pour parfaitement s'épanouir lors de son éducation. Un argument difficile à avaler pour le couple fribourgeois Kelly et Sarah Gomez.
Il n'y a pas besoin forcément d'un papa pour bien élever un enfant, parce qu'en fait, il y a un adage qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. L'enfant, il a besoin d'être entouré, d'être aimé. Donc, pour moi, ça ne fait pas sens de dire qu'il faut absolument un papa.
Ouais, parce que ça a été prouvé que fait un enfant, il n'a pas besoin que ce soit un mâle et une femelle qui l'élèvent. C'est... Ouais. L'amour, la sécurité, mais à aucun moment, biologiquement, c'est écrit dans ses gènes que « Ah, mon Dieu, si je n'ai pas ma maman qui me fait à manger, mon papa qui me fait jouer au foot, j'arriverai à rien dans la vie !» Ça n'a aucun sens.
Conclusion, selon les partisans du mariage pour tous, il faut distinguer le « je veux faire un enfant » de « je peux faire un enfant ».
Un couple de même sexe, on ne pourra jamais dire que cet enfant n'a pas été désiré. Vu tout le temps, l'énergie, la réflexion qu'il faut pour se dire « on veut un enfant », de toute façon, que ça passe ou pas, notre projet, on le réalisera. Ouais. Les familles homoparentales existent déjà, c'est juste pouvoir avoir un cadre légal, un peu de sécurité.
De donner des droits finalement aux parents et puis surtout aux enfants.
Et voilà, c'était un sujet réalisé par nos confrères de Radio Fribourg. Et puis, sous la coupole fédérale, pas question d'avancer le débat au Parlement fédéral sur le nouveau milliard de francs que la Suisse s'est engagée à verser aux pays de l'Est de l'Union européenne. Ce matin, le Conseil des États a sèchement recalé une motion d'ordre du socialiste genevois Carlo Sommaruga. Il estimait pourtant que c'était dans l'intérêt de la Suisse et de sa possible réintégration au programme de recherche Horizon Europe que de libérer ce milliard au plus vite. La majorité de droite a décidé de ne rien changer au programme qui prévoit ce débat le dernier jour de la session, à savoir le 30 septembre. S'il y a des divergences entre la Chambre, la décision finale ne pourra intervenir qu'en décembre. Carlo Sommaruga regrette cette procrastination.
La décision du 26 mai d'arrêter les négociations avec l'Union européenne a amené l'Union européenne à réagir de manière assez vive et notamment à faire un lien entre la question de l'accès au marché et la rupture des négociations avec les programmes, notamment le programme Horizon Europe, qui est extrêmement important pour nos universités et nos pôles de recherche. Et il a été dit de manière très claire à Bruxelles qu'il n'y aurait pas de discussion sur la participation de la Suisse au programme Horizon Europe tant qu'on n'a pas voté le milliard. Et il faut le faire rapidement parce qu'aujourd'hui, la mise en place d'Horizon Europe est lancée, elle avance et chaque jour compte dans ce dossier. Et je trouve regrettable de cette manière de vouloir chaque fois mettre le débat européen dans un coin. On a besoin maintenant d'un signal fort vis-à-vis de l'Union européenne.
Et on en apprendra donc davantage dans les derniers débats qui auront lieu le 30 septembre à la fin de cette session à Berne. C'était un sujet réalisé par Serge Jubin.
C'est une expérience inhabituelle à laquelle va se livrer la ville de Zurich.
Et oui, dès l'automne 2022, il sera possible de se procurer du cannabis en pharmacie via une distribution contrôlée, évidemment. Le projet pilote doit durer 3 ans et demi. Il alimentera une étude intitulée Zurich Can, le cannabis avec responsabilité, qui permettra de tirer des enseignements sur la meilleure façon de gérer la consommation de marijuana, mais aussi de promouvoir la santé publique et de renforcer la protection de la jeunesse. Plusieurs autres villes suisses sont intéressées par l'expérience dans le cadre d'études similaires. Et puis à l'étranger, le procès des attentats du 13 novembre est entré dans le vif du sujet. Hier après-midi, en France, un enquêteur des services français de l'antiterrorisme a été entendu à la barre. L'homme a fait le récit complet de l'enquête durant 4 heures, coupé à plusieurs reprises par les protestations de l'accusé Salah Abdeslam. Un récit durant lequel il a à peine regardé ses notes posées sur le pupitre, tant il connaissait le dossier par cœur. L'audience reprend donc aujourd'hui avec l'audition de la juge antiterroriste belge Isabelle Panou. Les premiers interrogatoires des accusés, eux, ne sont prévus que pour le mois de janvier. Et puis pas d'inquiétude pour Vladimir Poutine. Le dirigeant russe est en parfaite santé. C'est du moins ce qu'a annoncé le Kremlin aujourd'hui après que le président a été identifié comme ayant été en contact avec des personnes malades du Covid-19. Par précaution et malgré un test, Vladimir Poutine s'est ainsi auto-isolé le temps nécessaire. En course à pied, quelques 7000 amateurs de course à pied vont prendre part aux 20 km de Lausanne. Pour sa 39e édition, la manifestation vaudoise va faire son grand retour dans les rues de la capitale olympique. L'an dernier, les organisateurs avaient dû redoubler d'imagination pour proposer une course virtuelle, Covid oblige. Cette année, la situation permet une tenue presque normale de cet événement populaire, même si d'importants changements sont à signaler. À commencer par la date, des départs différés ou encore une place festive délocalisée. Pour ce cru 2021, des nouveautés sont également annoncées comme des épreuves nocturnes rajoutées au programme. Les précisions du comité d'organisation des 20 km de Lausanne, Patrick Isley.
On s'est rendu compte il y a déjà maintenant 2-3 ans qu'il y avait un effritement au niveau des inscriptions de toute la tranche de population, on va dire, des gens de 25 à 40 ans, pour dire cette tranche-là. On a souhaité aussi offrir des courses plus festives. Il y avait l'Apéro Run il y a 2 ans qui avait bien marché, et puis là, on a ces courses de nuit, donc des courses à la lampe frontale, et qui rencontrent vraiment un grand succès puisque les inscriptions sont complètes. Et je me réjouis beaucoup de voir tous ces gens courir la nuit.
Un grand succès populaire, mais aussi sportif, puisque beaucoup de grands noms seront de la partie pour ces 20 km de Lausanne, pas que pour les 20 km, on le rappelle, il y a plusieurs parcours, mais des gens qui sont là, qui sont déjà venus, des gens connus, qui peuvent faire quelque chose d'intéressant ici à Lausanne. Ça aussi, c'est rassurant finalement de revenir ces gens-là qui sont importants pour le monde de la course à pied.
Oui, bien sûr. Bon, les 20 km de Lausanne sont d'abord une grande manifestation populaire de familles, des jeunes. Je rappelle que c'est la seule course de cette importance en Suisse qui offre la gratuité aux jeunes jusqu'à 16 ans. Donc ça, c'est l'ADN des 20 km. On ne veut pas changer ça. Mais c'est aussi important d'avoir quelques noms de la course à pied, même si nous n'avons pas des prize money très très importants, mais quand même. Et effectivement, on constate que ces gens seront là à nouveau. Et c'est très bien.
C'était Patrice Isley, non pas Patrick, au micro de Ludovic Turin. La 39e édition des 20 km de Lausanne se tiendra donc à partir du 22 septembre jusqu'au 3 octobre. Durant cette fenêtre, plusieurs départs seront donnés afin d'espacer les près de 7000 amateurs de course à pied inscrits cette année. Et puis en gymnastique artistique, Benjamin Gichard a subi une opération à l'épaule droite et sera absent des salles pendant au moins 4 mois. Le Bernois manquera ainsi les épreuves de sélection qui débutent ce week-end en vue des mondiaux au Japon en octobre. Gichard avait remporté la médaille d'argent au sol au championnat d'Europe à Bâle. Cette année, était le capitaine des gymnastes suisses au JO de Tokyo.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
Le ciel va se couvrir gentiment mais sûrement cet après-midi avec un risque d'averse qui va augmenter au fil des heures et ce risque d'averse se maintiendra la nuit prochaine. Il va faire jusqu'à 24 degrés en pleine, 21 à 1000 mètres. Pour demain seulement en partie ensoleillé avec un risque d'averse déjà présent en matinée et prenant un caractère orageux en seconde partie de journée, surtout en soirée. Attention, Météo Suisse nous annonce des importants cumuls possibles entre mercredi soir et jeudi matin. Pour les températures de demain mercredi, de 16 à 22 degrés en pleine, de 14 à 21 à 1000 mètres et de 11 à 14 degrés à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.